Je m'appelle Francis Dognon, donc effectivement, je suis marié à une Anglaise, quatre enfants qui sont tous éparpillés dans les nations et qui servent le Seigneur dans, en Angleterre, au Canada, en Australie, voilà, un peu partout. Et puis, une fois qu'ils sont partis, ben, on est devenu famille d'accueil, c'est pour ça que je suis avec Aurore qui est là. Et donc, nous avons trois enfants, dont deux avec des handicaps. Et c'est vraiment intéressant parce que ça amène une autre approche aussi, surtout dans une des églises où je sers, où il y a trois familles avec le handicap. Et on l'a inscrit dans notre vision d'église aussi pour que les personnes qui sont dans ces situations-là puissent être vraiment, se sentir les bienvenus dans ces églises. Dans cette église. Et donc, je suis juste courtement, j'ai tendance à vouloir me tourner vers là parce que moi, je me suis converti à 23 ans et la plupart d'entre vous, vous avez moins. Mais 23 ans et le Seigneur m'a appelé à 24 ans. Et quand il m'a appelé, dans une conférence, voilà, il y avait un appel pour la mission et j'ai répondu oui dans mon cœur. Et un an après, je suis parti à plein temps avec Jeunesse en Mission. Et puis j'ai servi là pendant 7-8 ans. Et ensuite, je ne suis jamais retourné dans un travail séculier. Dieu, en tout cas, moi, m'a donné cet appel. Et de fil en aiguille, je suis devenu pasteur dans une église en région parisienne, enfin à Paris. Et puis ensuite, j'ai servi 10 ans dans ce ministère à Belleville. Et puis ensuite, je suis allé appelé par le Seigneur en Normandie. Juste avant ça, je le dis aussi pour les jeunes, parce que quand le Seigneur nous appelle, c'est assez incroyable en fait. Il m'a envoyé dans pas mal de nations avec Jeunesse en Mission. Et un jour, j'ai vu un jeune qui marchait avec une croix de 4 mètres, avec une petite roue au bout, pour que ce soit plus facile. Et le Seigneur m'a appelé à aller dans 13 pays avec cette croix. Et j'ai fait les premières marches. Donc il y a une Estonienne ici, bien avant que tu sois né. En 1990, de mémoire, ou 91, 90, j'ai marché dans ton pays. J'ai fait l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, enfin les trois pays baltiques. Et donc j'ai pu prier là-bas aussi, dans ce pays, juste après que le mur de Berlin tombe. Et c'était assez un souvenir très fort, si on a le temps de parler. Voilà, et puis ensuite Dieu m'a appelé en Normandie, donc... à Lisieux. Et si on peut mettre la première slide, on continuera ensuite après la lecture, mais je finis la présentation. J'ai oublié de dire donc, que je suis donc maintenant directeur de la mission intérieure baptiste dans la fédération, responsable du développement, et c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui pour vous rendre visite. Vous avez les salutations du président, du secrétaire général. La fédération sait que je suis là et donc on veut vous encourager aussi. Et donc là, voilà, j'ai été appelé en Normandie, donc à Lisieux en 2005. Et puis, je ne savais pas à l'époque, mais le Seigneur a permis. Moi, je voulais simplement implanter une deuxième église après avoir implanté la première. Et puis, il y a eu tout un concours de circonstances avec des leaders qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Est-ce que tu peux nous aider ? On a une vision pour notre région, on a quelque chose qu'on voudrait vraiment faire. » Et progressivement, ce que vous avez en bleu, ce sont des implantation. Avant ça, on a implanté un café associatif en 2011. Ça a été un combat, j'en reparlerai. Mais nous avons un café qui est comme une antenne d'évangélisation, complètement déconnectée de l'église, pour créer le lien social avec les habitants dans un quartier très, très défavorisé. Et ce café existe depuis 11 ans et tourne grâce à des bénévoles de l'église de Lisieux, notamment. Et puis, ensuite, nous avons... eu des implantations à Caen, à Saint-Lô, à Honfleur, au Honnebourg. Et puis, après cela, un street pasteur, pasteur de rue, Elton. J'aurais bien voulu venir avec lui. Il est albanais. Il est venu pour fuir son pays parce que sa sœur a été prise dans le trafic humain. Et il a voulu dénoncer ça. Et les proxénètes ont commencé à menacer physiquement sa femme et sa famille. Il a dû fuir à pied. Il a atterri vers Saint-Lô, où un monsieur de 84 ans l'a pris tous les après-midi pour lui apprendre le français. Et quand moi j'ai rencontré Elton, quelques mois plus tard, il a été déplacé, vous savez comment fait le gouvernement, donc il a été déplacé de Saint-Lô à Caen, puis de Caen à Lisieux. Et quand il est arrivé à Lisieux, je l'ai invité pour un repas le lundi soir, et ma femme a dû partir avec sa femme parce qu'elle avait une fausse couche. Vous vous rendez compte, ils étaient sur les routes, elle était enceinte. C'est dingue les vies qu'ils ont. Certaines de ces personnes. Et ça a été le début d'une amitié très très forte. Et aujourd'hui, c'est un de nos leaders, leaders de rue, tous les jeunes du quartier de Lisieux le connaissent, tous. Il joue avec eux chaque semaine au football, tous les mercredis. Ils tissent des relations. Ils savent tous qu'il est là au nom de l'église et au nom du café. Il y a un couple qui s'est marié récemment. Et il a dit bah, ils auraient besoin d'un micro-ondes, d'un frigo. L'église s'est mobilisée et Elton y va. Il donne le frigo, le micro-ondes et il dit c'est de la part de l'église qui est à Lisieux. Et voilà comment le témoignage est en train de se répandre dans cette ville. C'est difficile, mais on est vraiment en train de persévérer. Et puis, voilà donc le réseau que nous vivons en Normandie et c'est vraiment passionnant. Alors, je vais appeler Gérard pour la lecture, pour les 5 premiers versets, tu peux venir. Donc, dans Néhémie 3, les versets 1 à 5.
Eliashib, le grand prêtre, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres, et se chargèrent de la reconstruction de la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Puis ils continuèrent à réparer la muraille, qu'ils consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, puis jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'eux, travaillaient les habitants de Jéricho. À leur suite, c'était Zaccour, fils d'Imri, qui bâtissait. Les descendants de Séna reconstruisirent la porte des poissons. Ils en firent la charpente et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, Mérémoth, fils d'Uri, petit-fils d'Akots, travaillait. À sa suite était Meshulam, fils de Berechia, fils de Mehézabel. Et plus loin, Sadoc, fils de Bana. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusèrent de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre.
Merci beaucoup Gérard. J'ai épargné la suite du chapitre, n'est-ce pas, parce que c'est un exercice de prononciation absolument incroyable. Alors oui, nos murailles, on va parler un petit peu des murailles. Et en fait, comme j'ai dit au début, je voudrais un petit peu finalement vous titiller ou que laisser la parole vous titiller parce qu'elle va nous interroger finalement sur nos motivations. C'est vrai que je pense, ici vous êtes dans une église vivante et il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est vraiment super. Et ce qu'on rêverait bien sûr, c'est de voir beaucoup, beaucoup de monde travailler sur les murailles. Et donc on va voir d'abord, voilà, sur un plan théologique, très courtement, deux ou trois réalités et puis ensuite on va entrer dans des choses très pratiques, très rapidement. Mais si on va sur la slide suivante, on va voir que la mission des travailleurs, c'est de reconstruire la muraille. Et ce chapitre, effectivement, décrit le travail de divers groupes qui œuvrent donc à la reconstruction de la muraille. Et c'est intéressant qu'il y a plein de personnes diverses qui sont nommées. Leur domaine du travail est décrit de façon précise et puis la description commence à la porte des brebis et puis ça tourne tout le tour et puis ça revient à la porte des brebis. Et puis on va voir, comme je le disais, les motivations diverses parmi les travailleurs. Alors il y en a beaucoup qui sont zélés et puis on va repérer quand même quelques attitudes un peu contrastées parmi tous ces travailleurs. Parce qu'en fait, quand on lit rapidement ce chapitre, on voit juste une succession de noms, mais en fait, j'espère qu'on va pouvoir découvrir beaucoup plus que ça. Il y a quelques nobles, effectivement, qui ne participent pas au travail. Ça apparaît comme un refus. Mais néanmoins, ce travail, il était voulu par Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu, il veut un certain travail. Et c'est vrai qu'il nous faut apprendre à travailler pour le Seigneur sans excuse. Et ce n'est pas évident, parce que nos chairs, souvent, ne sont pas contre. Mais voilà, on voudrait quand même pouvoir un petit peu être cool et tout ça. Mais il y a des exigences. Que signifie pour nous l'édification de la muraille? Alors, les murailles sont une séparation avec les gens du dehors. Voilà, elles entourent et enferment la cité, elles forment une unité administrative avec ses lois, ses coutumes, son gouvernement, et puis elles séparent d'éléments étrangers et garantissent tout mélange. Donc c'était comme ça, du temps de Néhémie, il fallait construire ce mur un petit peu pour avoir aussi un moyen de défense contre l'ennemi. Elle repousse les assauts de l'ennemi et assure la sécurité des habitants de la ville et de ses citoyens. Alors, si on tente d'appliquer aux circonstances d'aujourd'hui, bien sûr, on pourrait dire nous devons travailler sur nos murailles. Et c'est vrai que l'Église, aujourd'hui, devient de plus en plus invisible aux yeux des hommes. Les brèches sont nombreuses, le travail paraît gigantesque. Et bien sûr, je ne sais pas combien il y a d'églises à Angers, mais ce n'est pas seulement votre église, mais c'est votre église à côté des autres qui participe à ce travail pour faire quelque chose que Dieu veut dans cette ville et qu'il veut passionnément. Et il a besoin de tout le monde. Alors, la question, parce que l'église semble mal en point, et très souvent je discute avec des gens qui me disent « mais l'avenir me fait peur ». Mais moi je dis, on n'a pas besoin d'avoir peur puisque l'Église, elle est dans les mains de Dieu. Elle est dans les mains de Dieu. Le Seigneur sait où il nous conduit et comment il nous conduit. Bien sûr que le monde est en train de se dégrader. Ça c'est évident, mais ça ne devrait pas nous effrayer, même si on n'aime pas ça. C'est fixer nos yeux sur Dieu pour voir qu'est-ce que lui, il a derrière tout cela. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Et si on ressemblait à Néhémie, ou s'il y avait un Néhémie parmi nous, on comprendrait l'urgence de regrouper ensemble les véritables croyants et de travailler à leur unité visible au lieu de chercher tout ce qui nous divise. À cause des assauts livrés par le monde sous la conduite de Satan et son but à lui, c'est d'empêcher les fidèles désemparés de tenir debout pour Christ. Nous devons tenir debout, bien sûr. Alors, on saurait que le devoir de chacun, c'est de se séparer de toute forme de mal, et c'est ce qui se passait au temps de Néhémie. Le mal, qu'il soit individuel ou collectif, moral ou doctrinal, religieux ou mondain, charnel ou terrestre. Tout ceci pour que les chrétiens soient visibles aux yeux du monde. Nous devons être visibles. Alors, si on parle des murailles, nous devons parler des portes, évidemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une maison sans porte? Levez la main. Non, il n'y en a pas. Non seulement nous avons des portes, mais qu'est-ce qu'on fait chaque soir? On les ferme à clé, n'est-ce pas? Enfin, normalement. C'est un réflexe qu'on a. On n'y réfléchit même pas, en fait. Et donc, reconstruire la muraille, c'est bien. Mais Néhémie réalise qu'il faut s'occuper des portes. Il y a un problème. L'ennemi savait très bien ce qu'il avait fait en consumant les portes par le feu. Regardez le verset 13. « Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. » Vous savez que les portes d'une ville, c'est quelque chose de capital. Alors, il y a des portes à Angers, je ne sais pas. Il n'y en a pas dans toutes les villes. Mais dans certaines villes, vous pouvez voir les portes, n'est-ce pas? D'ailleurs, Paris, c'est un peu le cas. Il y a les noms des portes, c'était les anciennes portes. Alors, elles pouvaient donc, ces portes, être ouvertes pour laisser entrer et sortir librement les habitants avant qu'elles soient brûlées. Elle pouvait exclure tout élément étranger, coupable, contagieux ou criminel qui aurait eu domicile. Donc je finis cette partie théologique. Et puis les portes étaient fermées la nuit pour que les citoyens, entre autres, soient protégés du danger. Alors je vais avancer un petit peu vers la slide suivante. Là, j'ai noté que peut-être il y a une sorte de réveil. Dieu utilise Néhémie pour réveiller presque tout le peuple. Alors, moi, j'aime pas le mot réveil, vous savez pourquoi? Parce que si on parle du mot réveil, ça veut dire qu'on dort. Enfin, moi, je trouve que quand le réveil sonne le matin, qui c'est qui aime quand le réveil sonne le matin? Personne. Ben, ça veut dire qu'on dort et il nous dérange, il nous perturbe. D'un seul coup, il y a cette sonnerie. Alors moi, je connais des gens, ils ont 3 ou 4 sonneries programmées à la suite. Il y en a là, levez la main, confessez, c'est pas un péché. Ah, pas mal. Et puis, éventuellement, vous vous levez. Eh bien, vous savez, c'est ça un petit peu. Le Seigneur va se servir du zèle de Néhémie pour réveiller non pas tout le peuple, mais presque tout le peuple. Presque. Il y avait diverses sortes de travailleurs. Il y avait, nous dit le texte, ceux qui étaient zélés, on va le voir, les tièdes, et puis les rebelles qui sont un peu hostiles. Mais je voudrais vous faire remarquer que dans ce texte, extérieurement et par profession de foi, ils se mettent tous au travail. Ils se mettent tous au travail. Ils offrent leur service comme bâtisseurs. Bah, il s'agissait d'un vrai réveil parce que quand même, quand tout le monde se met au travail, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Imaginez si dans toutes les églises de France, tous les membres des églises actuelles, il y a je ne sais pas combien de milliers d'églises il y a en France, hein, le CNEF les a répertoriées. Si chaque membre de chaque église se lève pour faire l'œuvre qu'il peut faire en fonction de ses dons et qui il est, mais vous imaginez l'impact que ça aurait. Si tous, je dis des fois en assemblée générale, dans les églises, si on est 40, imaginons que chacun en gagne une personne dans l'année, une seule, on sera 80 l'année prochaine, on sera le double. Et on voit bien que chacun, on a un rôle important à jouer. Donc il s'agit d'un réveil et ça montre qu'ils étaient en accord avec la pensée de Néhémie en décidant de construire ce mur. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu, il prend note de ceux qui travaillent. Vous voyez, après lui, Baruc, fils de Zabaï, après lui, et puis ici, après lui, Bernard, après lui, je n'ai pas les prénoms là, c'est dommage. Mais Dieu, il est là dans cette salle par le Saint-Esprit et il regarde de la même manière. Et il pourrait donner tous vos prénoms. Voilà, il vous connaît, il sait exactement ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Il sait tout ce que, je parle en toute liberté hein, parce que je suis de passage, il vous connaît exactement. Et je trouve que c'est intéressant que Dieu observe son peuple avec minutie et qu'il prend note de leur état, de l'état de leur cœur et du caractère de leur service. On va le voir. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi. Il se plaît à reconnaître le zèle qu'il montre pour sa gloire. Dieu aime quand on le sert, et je vais préciser plus tard, peu importe la tâche. Peu importe la tâche. Nous allons voir maintenant différents types d'ouvriers. Vous êtes prêts ? C'est parti. Slide suivante, un ouvrier négligent. C'est Eliashib. Alors lui, il est très sympa au début, puis il va le devenir moins au fur et à mesure qu'on va découvrir qui il est. Eliashib, c'est le souverain le grand sacrificateur. Et avec ses frères sacrificateurs, ils sont les premiers travailleurs mentionnés dans la liste. Pas parce qu'ils sont plus ailés que les autres, mais simplement parce que c'est un sacrificateur, donc il a une sorte de position sociale, donc il est nommé le premier, comme on accueillerait un ministre, on le nommerait en premier, voilà, un petit peu comme ça. Et il est dit au verset 1, « Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis, ils la consacrèrent et en posèrent les battants, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananaël. » Alors, il y a une différence entre cet homme et les sacrificateurs, et puis cet homme qui s'appelle Sanaa au verset 3. Et les fils de Sanaa bâtirent la porte des poissons, ils en firent la charpente, en posèrent les battants, les verrous et les barres. Est-ce que vous avez noté la différence entre les deux ? Vous avez le droit, ils ont le droit d'intervenir ? Qui c'est qui a la réponse ? Ouais, entre autres, il n'y a pas que ça. Mais c'est quand même étonnant parce que le grand sacrificateur et ses frères, ils ont bâti une porte, évidemment, ils ont posé ses battants, mais ils n'ont pas fait la charpente qui lui aurait donné sa solidité ou sa stabilité, et il n'est pas mentionné qu'il l'ait pourvu de barres et de verrous non plus. Donc c'était un travail un peu bâclé. Cette entrée de Jérusalem n'était pas bien gardée contre ceux qui auraient voulu s'introduire dans la ville. Quelle négligence de cet homme Eliashib. Il n'était pas aussi vigilant que les fils de Sénat. Vous voyez, il voulait bien avoir la porte et les battants, mais Eliashib, il ne prend aucun soin d'interdire l'accès à l'ennemi en mettant des verrous. Il n'était pas prêt, à la vérité, on va le voir, à stopper le commerce qu'ils avaient avec l'ennemi. Les intérêts que lui procurait le commerce avec les ennemis. Pourquoi cette attitude de relâchement, de désintéressement ? C'est vrai qu'en tant que sacrificateur, on aurait attendu autre chose de Eliashib, qu'il incarne des valeurs de paix, de morale, d'honnêteté. Mais regardons la situation réelle de cet homme. Il nous faut aller au chapitre 4 et 5 au chapitre 13, versets 4 et 5. Avant cela, Le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du moût et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Alors là, on voit trois choses sur cet homme. Premièrement, il était parent de Tobija. C'était qui ce Tobija ? La parole est à vous. Vous vous souvenez ? Plus fort, oui. C'est ça. L'adversaire de Néhémie. Un point de ce côté. Vous pouvez vous rattraper, il y aura trois ou quatre questions. Pour l'instant, les jeunes dominent le débat avec brio. Alors oui, c'était un des trois adversaires qui sont venus menacer Néhémie dans le chapitre 1 et 2, vous pourrez le relire. Et comme par hasard, Eliashib s'allie donc à Tobija l'ammonite, l'un des trois grands adversaires du peuple de Dieu. Mais en plus, alors c'est quoi la deuxième erreur ? Vous avez une idée ? Ou peut-être c'est un trop compliqué peut-être à demander. Non, il n'y a pas une main qui se lève chez les adultes ? Non ? Il fait des grosses bourdes, vous allez voir. Il lui emménage une chambre dans le parvis du temple. Cette pièce qui était supposée recevoir les dîmes, vous savez, les offrandes, les céréales et tout ça pour le peuple, eh bien, il fait table rase de ça et puis il installe l'ennemi là où il ne devrait pas être, au cœur du peuple de Dieu. Et bien sûr, quand Néhémie va découvrir cela, nous le voyons au verset 6 et 7 du chapitre 13. « J'étais pas à Jérusalem quand tout cela a eu lieu, dit Néhémie, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtiens du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. » Et puis, troisième chose, mais ça on le voit en lisant un petit peu plus loin, c'est au verset 28. Il y a un petit-fils de ce même Eliashib qui était gendre du deuxième grand adversaire des Juifs qui s'appelle Sanballat, le Horonite. Eh bien, nous le voyons au chapitre 13, verset 28. Un des fils de Yoyada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sanballat, le Horonite. Vous voyez, non seulement lui, il commerçait avec l'ennemi, mais il laissait ses enfants s'allier en mariage avec le peuple ennemi, ce qui à l'époque était interdit par la loi en plus. Alors Eliashib, il représente finalement quoi ? Il représente quelqu'un qui a un cœur partagé. Est-ce que ça peut arriver dans nos églises ? Je ne sais pas. Mais il donnait l'apparence d'être d'accord avec ses frères dans leur effort pour reconstruire le mur et les portes de la ville. Mais en fait, Eliashib, ce travail de séparation, ça ne lui convenait pas, car il était lié, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des intérêts intimes avec les ennemis d'Israël, et notamment du commerce qu'il faisait avec eux. Et bien sûr, une telle attitude était grave pour ce grand sacrificateur, parce qu'elle était une source de danger pour le peuple. Alors, bien sûr, cette négligence qui est grave parce qu'elle a des responsabilités et parce qu'il est en vue. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour les serviteurs de Dieu qui ont des responsabilités, qu'on puisse rester debout, parce qu'il y a des combats, il y a des luttes, c'est jamais évident. Et même moi, je ne peux pas garantir que je resterai toujours debout. Je le souhaite ardemment, mais ça serait de l'orgueil de dire que je ne vais pas tomber. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut toujours être vigilant. Alors, Église d'Angers, qu'on ne trouve personne chez vous qui a un cœur partagé. Dit autrement, un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Ça serait dommage, parce que vous savez pourquoi ? Parce que quand on a un pied dans l'Église, un pied dans le monde, dans mon expérience, c'est presque souvent le monde qui gagne. Il faut vraiment prendre une décision radicale de servir Dieu, comme je l'ai fait quand j'étais jeune. Et moi, j'ai cette passion, et j'espère avoir cette passion jusqu'à ma mort, de continuer à servir Dieu jusqu'au bout. Moi, je vous expliquerai. Moi, je forme des jeunes pour prendre la relève. Je ne veux pas être sur le terrain en responsabilité, trop vieux. Mais par contre, je veux continuer à faire des choses jusqu'à ma mort, si Dieu me donne la santé. On va voir maintenant quelques ouvriers indifférents sur la slide suivante, parmi les Tekoïtes. Alors, les Tekoïtes, c'est intéressant. Verset 5. « Et à côté d'eux réparèrent les Tekoïtes, mais les principaux d'entre eux ne plièrent pas leur cou au service du Seigneur. » Alors, les Tekoïtes, de façon générale, c'était des gens vraiment zélés. Parce qu'il est dit au verset 27, « Ils réparèrent une seconde portion. » Voyez, c'est des gens, on leur demande de réparer 10 mètres, ben ils en réparent 20. Et il y a des gens dans les églises, des fois, on leur demande de faire quelque chose et ils font 10 fois plus. J'ai un frère dans une des églises à Honfleur. J'ose pas lui demander quelque chose parce qu'il est tout le temps en train de servir. Un jour, j'ai compris que son mode de langage à lui, sa passion, sa motivation, c'est de servir les autres. Mais il est tout le temps. Et donc, ces Tekoïtes, c'est des gens, quand on leur demande quelque chose, ben, ils font beaucoup plus. Amen pour ces personnes dans les églises, n'est-ce pas? Les pasteurs, ils aiment bien ça, n'est-ce pas? Mais on aime tout le monde. C'est notre appel. Normalement. On n'est que des hommes. Hein. Alors les Tekoïtes, ils sont là. Pourquoi une telle opposition de certains d'entre eux? Eh bien, vous savez, c'est souvent le cas quand Dieu fait une œuvre quelque part. Il commence souvent, j'allais dire, avec les petits, avec les pauvres, souvent même avec les maîtrisés. Regardez l'histoire des réveils, regardez l'histoire de l'Église. C'est pas forcément avec les élites que ça démarre, c'est souvent sur le terrain. Je crois que le réveil d'Azusa Street, ça a démarré avec quelques personnes âgées qui priaient de mémoire dans une église. Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut et comme il veut. Il connaît les cœurs et c'est ça qui est important. Moi, je me retourne vers les jeunes, mais si vraiment vous prenez ça au sérieux et que ça boue en vous et que vous avez quelque chose que vous voulez faire pour Dieu, dites-le lui, il va vous prendre au mot. Et il va faire des belles choses avec vous dans les temps qui viennent. Moi, je vous exhorte vraiment à croire ça, parce que c'est fantastique. Vous avez des années devant vous pour le servir. Et c'est le cas aussi pour toute l'Église en général. Alors, c'est vrai que là, il y a certains qui ne plient pas leur cou au service du Seigneur, nous dit la parole, parce que l'orgueil gouvernait leur cœur. Ils ne pouvaient pas se courber devant Néhémie. Peut-être qu'il y avait des riches là, puis ils se disaient, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi j'obéirais à Néhémie? Pourquoi je me courberais devant lui? C'est un petit peu ça, là. J'ai eu un homme très riche une fois dans une de mes églises. Et moi, je lui ai dit tout de suite, écoute, je sais que tu as beaucoup d'argent. Est-ce que tu permets que je parle dans ta vie s'il y a besoin? Et moi, je t'autorise à parler dans la mienne. Il m'a dit oui. Mais dans la réalité, ce n'était pas aussi simple après. Parce que c'était quelqu'un qui a toujours pris beaucoup d'autorité, beaucoup de responsabilité dans son travail. Voilà, et il était tenté de me dire comment faire mon travail. Et c'est sûr qu'on peut le faire toujours mieux, le travail. Hein. On n'est pas parfait. Mais parfois, il y a des personnes comme ça, et c'est ce qui se passait pour Néhémie. Ensuite, on voit sur la slide suivante que certains réparent vis-à-vis de leur maison. Bah, c'est pas bête, hein, finalement. Tu habites là, bah, tu répares la muraille qui est juste en face de toi. Maintenant, là, il faut comprendre aussi qu'il y a le fait lui-même de réparer devant sa muraille et puis il y a l'instruction qu'il faut en tirer. Les enfants d'Israël, nous le voyons dans plusieurs versets d'ailleurs, entreprennent la construction de la muraille vis-à-vis de leur propre demeure. Alors, il y a l'aspect physique et puis l'instruction à en tirer, c'est, je résumerai avec cette expression familière, qu'il faut balayer devant notre porte. Vous savez, lorsque Gédéon a été appelé pour sauver son peuple, qu'est-ce que Dieu lui a demandé en tout premier? Là, c'est une question à un point. Allez-y. Oui, un point dans cette section. C'est bon, il y a égalité maintenant. Les autres, il faut vous réveiller. Hein. Donc, il lui demande d'aller détruire l'idole de la maison de son père. Donc, il lui demande de mettre en règle sa vie et presque la vie de sa famille même avant de pouvoir faire des choses avec lui. Ça n'a pas changé, mes amis. Il faut, si nous voulons vivre des choses fortes avec Dieu, que nous puissions vraiment mettre les choses en règle dans nos vies, que nous puissions essayer de rassembler nos familles, essayer de les mettre dans les mains de Dieu. Ce n'est pas facile. Vous savez, on a démarré un jour de jeûne et prière en Normandie pour toutes les familles du réseau, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup d'enfants ne suivent pas le Seigneur, beaucoup trop, et ça brise notre cœur. On veut vraiment revendiquer auprès de Dieu que ses enfants lui appartiennent et qu'ils auront un chemin de retour vers lui dans les prochaines années. Et on a vraiment un cœur pour toutes les familles qui sont dans cette situation-là. C'est tellement difficile parce qu'on voudrait tous voir nos enfants venir au Seigneur. Alors la slide suivante, bah, c'est certains qui ne réparent pas vis-à-vis de leur maison. C'est l'inverse. Et là encore, on va retrouver ce fameux homme sympathique ou moins sympathique, Eliashib. Quelques-uns avaient bâti les portes et aidé à la muraille, mais ils ne réparent pas devant leur maison, à l'exemple de Eliashib à nouveau. Alors, si on va, chapitre 3, verset 20-21, « Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion, depuis l'angle de la porte de la maison d'Eliashib, donc il démarre à la maison d'Eliashib, hein, le souverain sacrificateur. Après lui, Méremoth, fils d'Uri, fils d'Akot, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. » Bon, quand vous lisez ce verset dans les détails, vous apercevez que ce sont d'autres personnes qui construisent la muraille qui revenait à Eliashib. Eliashib, vous vous souvenez, il avait réparé la porte, sans bien le faire d'ailleurs, mais il ne participe pas au travail de la muraille. Ce sont d'autres serviteurs qui réparent devant sa maison. Et là, j'aimerais juste essayer de décrypter deux types de croyants qui sont désignés. Il y a ceux qui professent la vérité sans la vivre. Alors ça, c'est Eliashib tout craché. C'est-à-dire que, en plus, par sa fonction, il représente Dieu, n'est-ce pas? Et il sait faire, puisque voilà, quand il bâtit sa porte, il l'a oint, si vous lisez bien dans les 5 premiers versets, il la consacre, la porte et tout ça. Donc il fait son travail, mais il a un tel cœur mélangé et finalement, il ne vit pas vraiment les choses qu'il devrait vivre avec Dieu. Comme j'ai dit, il représente Dieu par sa fonction, mais il ne s'occupe pas de sa maison. Il ne participe pas à l'œuvre de Dieu totalement. Et ça veut dire pour nous, si on le remettait dans notre contexte, être chrétien sans être disciple. Voilà. C'est-à-dire faire le minimum vital, peut-être venir au culte le dimanche, et puis le reste de la semaine, ben voilà. Et vraiment, être disciple, c'est 7 jours sur 7, c'est tous les jours de notre vie, c'est chaque minute. Nous, avec mon épouse, quand on s'est mariés, on a dit, on veut que notre maison, elle soit ouverte toute notre vie. On ne savait pas ce qu'on disait, je crois. Mais en fait, au début, on a déjà fait de l'accueil. Puis on s'est aperçu qu'en tant que pasteur, c'était compliqué, que ça ne marchait pas. Il y avait des structures sociales et tout ça. On a fait pas mal d'erreurs avec mon épouse, mais Dieu ne nous a pas condamnés pour ça. Et puis, on a eu nos enfants. Et puis, quand ils sont partis, eh ben, on les a remplacés par d'autres enfants. On voulait donner une chance, voilà, à des enfants. Et là, on en a eu pas mal, en fait, qui sont... Et c'est pour ça que je suis venu avec Aurore aujourd'hui, parce qu'on a 6 enfants, en fait, à la maison ce week-end. Donc, ça faisait un petit peu beaucoup. C'est exceptionnel. D'habitude, on n'en a que 3. Mais... c'est passionnant, c'est un ministère aussi. Et c'est une façon de se rappeler qu'on peut servir de Dieu de tellement de façons multiples. Et je sais que vous le faites aussi à votre manière. Ce n'est pas toujours simple. En tout cas, Eliashib est un exemple de cette classe de personnes dans ce chapitre où il n'est pas ce qu'il devrait être. Et puis il y en a d'autres qui sont très zélés pour veiller sur leur propre maison, mais qui ne se soucient presque pas du bien-être de l'Église, et qui ont une foi forte et qui sont même parfois moralisateurs et qui vont donner l'apparence de chrétiens très engagés et super efficaces, mais ils ne comprennent pas les réalités du corps de Christ et souvent ils sont même à côté de l'Église et pas dedans. Alors qu'en réalité, si on construit la muraille, nous avons besoin d'être engagés dans des églises locales, d'être ensemble, les uns à côté des autres, pour voir la belle œuvre que Dieu a préparée. Mes amis, la slide suivante, elle est pour les femmes. Ou les filles. Ah, il y a un papa qui est mentionné dans cette liste avec ses filles. C'est étonnant, non? Verset 12 de ce chapitre. À côté d'eux, réparèrent Shalum, père d'Alokchef, un truc comme ça, chef de la moitié du district de Jérusalem, lui et ses filles. C'est intéressant que le zèle de ces jeunes femmes leur a été donné d'être mentionnées dans la Bible. et d'acquérir une place dans ce palmarès de l'œuvre du Seigneur. Vous savez que la Bible a été écrite essentiellement par des hommes, dans une culture orientée vers les hommes. Et tout ça, il faut en tenir compte pour remettre dans le contexte aujourd'hui, hein, et sortir un petit peu de... Voilà, on est tous égaux, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que ça a été écrit comme ça. Et là, dans ce récit, on voit, comme dans d'autres récits du Nouveau Testament, qui nous montrent, par exemple, que... Il y a des femmes qui ont pris leur place dans le service. On pourrait parler de Jeanne, la femme de Chuzas, Suzanne et bien d'autres qui ont assisté le Seigneur de leur bien. Marthe et Marie, Phoebé, tu as déjà fait une étude sur Phoebé. Elle me touche beaucoup, cette femme, quoi. Elle est toujours dans le service, discret, là, pleine d'amour. Priscilla et bien d'autres sont certainement suffisantes pour diriger quiconque désire s'asseoir au pied de Jésus et apprendre sa pensée. Et Priscilla, bien sûr, a eu un rôle aussi de leadership. Donc ce passage ne nous montre pas nécessairement ce que l'homme voit, mais ce que Dieu a vu. Et ce que Dieu voit, c'est qu'il y a un père et ses filles qui étaient engagés ensemble dans la réparation du mur et le fait que ce soit mentionné est à leur crédit. Alors voyez les jeunes, vous n'êtes pas l'église de demain, hein, vous êtes l'église d'aujourd'hui déjà. Et ce que vous faites, mais là je vois un beau groupe, je ne vois pas ça dans beaucoup d'églises honnêtement, hein. Il y a un bon groupe là. Alors que Dieu vous bénisse, hein. Mettez le feu quoi, là où vous allez, là où vous passez. Enfin, respectez quand même l'église, mais ce n'est pas grave, vous pouvez bousculer des traditions. Mais tu es en accord avec ça, ça va? Ouais, ouais, c'est bon, je te connais un peu. Mais allez-y quoi, et Dieu note toute chose, et il voit. Et il voit votre cœur, il voit votre zèle. Maintenant le truc, c'est que vous gardiez ça toute votre vie. Cette passion, ce zèle, ce que vous avez en vous, il faut le garder année après année, après année, après année, jusqu'au bout. Et ça, c'est ce qui est essentiel. Alors, sur la slide suivante, on voit encore quelque chose d'important, des ouvriers avec des talents différents, mais fidèles. Et je fais la comparaison entre Meshoulam et Shalom, c'est ça? Ouais. Alors, ce Meshoulam, qui est le fils de Bérékia, il est dit qu'il réparera vis-à-vis de sa demeure. Verset 30. Après eux, Meshoulam, fils de Bérékia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Vous voyez, ce Meshoulam, il n'avait pas une grande maison, il n'avait pas une grande propriété, il n'avait pas de jardin, il avait juste une petite chambre. Et avec ce petit logement, je dirais que quoique le cercle de sa responsabilité soit étroit, il a été trouvé fidèle par rapport à ce qu'il avait. Il avait une petite chambre, il a travaillé en conséquence sur le mur par rapport à cette chambre qu'il avait. Ainsi, on voit, par exemple, avec le travail de Shalom, c'est différent au verset 15. Shalom, fils de Kol Hodzé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Et ce Shalom, qu'est-ce qu'il fait? Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'à 10 degrés qui descendent de la cité de David. Donc on voit Shalom qui répare la porte de la fontaine, qui la bâtit, qui la couvre, qui pose, voilà tout ce que je viens de dire. Il fait énormément de choses, mais Shalom est mentionné exactement, lui qui fait énormément de choses, est mentionné de la même manière que Meshoulam qui fait juste quelque chose en face de sa chambre. Et voyez, ça nous dit quoi, ça? On va le voir, mais ça veut dire qu'il faut être fidèle en fonction de ce que Dieu nous donne. S'il te donne beaucoup, tu dois être fidèle avec beaucoup. S'il te donne peu, tu dois être fidèle avec peu. Et on va le voir dans une... J'approche de la fin. La slide suivante, c'est... Il y a des ouvriers qui sont en groupe et d'autres qui sont isolés. Alors c'est vrai que moi, personnellement, avec ma nature, je préfère travailler en groupe. Vous avez vu le réseau au début. On est des leaders qui travaillent ensemble. Ce n'est même pas structurel. C'est basé sur l'amitié, c'est basé sur nos relations. Je suis quelqu'un qui aime travailler en groupe. Quand on fait le jardin à Rouen, parce qu'il y a un presbytère, puis il y a un jardin, il faut tailler les haies, tout ça... J'ai un petit peu moins de temps maintenant, mais les premières années, j'allais avec eux. Et je suis passionné quand on est avec des hommes. On travaille, on coupe les sapins, il y en a toujours un qui se prend pour Rambo quand on prend les photos. Là, il prend la tronçonneuse, là, puis il est là. Mais j'ai des photos, je vous assure. Mais c'est génial. Et puis, on est nous-mêmes, on n'a pas de masque, on blague, on est nature, quoi. Et pourquoi on ne serait pas comme ça dans les églises? Mais je sais qu'ici, vous l'êtes, parce que je connais Bernard un peu. Donc là, vous n'avez pas le choix. Mais c'est vrai que... Il y en a qui travaillent en groupe et puis parfois il y en a qui préfèrent travailler seul. Et au début ça me perturbait, mais ce qui est essentiel et ce que nous voyons dans cette liste, c'est pas grave qu'ils travaillent en groupe ou seul, ils avaient le même but. Et ce but, c'était de reconstruire la muraille. Amen. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Alors sur la slide suivante, on voit qu'il y a diversité de services. Et ça, c'est important à noter. L'un faisait une chose, l'autre autre chose, mais tous travaillaient pour le même but. Et bien sûr, il y a cette image que vous connaissez dans Romains 12, et c'est tellement important, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce comme l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et puis vous connaissez la parabole du corps où finalement, on y réfléchit. Il est tellement clair ce passage de Romains 12. Nous avons un corps avec des mains, des pieds, un nez, des yeux. Et en fait, on n'y réfléchit jamais, sauf quand ce corps nous rappelle parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il y a un pied qui ne va pas, qu'on ne peut plus marcher, ben on se dit « mince, il était tellement important ce pied ». Si un jour on a des problèmes aux yeux, on se dit « Oh, quelle grâce que j'ai pu voir pendant tant d'années !» Et puis si un jour on a des problèmes de surdité, on se dit « Mais les oreilles, c'est tellement important !» Et on voit que tous les membres de notre corps, en fait, sont importants. Et dans l'Église, c'est pareil, parce que chacun a un don, chacun a un domaine de responsabilité, chacun a quelque chose en fonction de ce que Dieu attend de lui, parce que vous avez été créé d'une manière spécifique, avec des dons spécifiques. Moi, je suis un pionnier. Dieu m'a créé comme ça. Je ne peux pas échapper à mon appel. Ce n'est pas le plus facile. Ce n'est pas le plus difficile. C'est juste comme ça. Et je suis connu comme quelqu'un qui travaille beaucoup. Mais je me repose aussi. J'ai une femme qui est très, très, comment on dit, très terre à terre. Voilà. Donc, elle m'a beaucoup aidé. Mais je suis un passionné. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas l'importance. Je sais que je suis un serviteur inutile. Je sais que je peux ne rien faire et être aimé par Dieu de la même façon. Mais par contre, je sais que si Dieu te donne 5 talents, tu dois les utiliser. S'il t'en donne 1, tu dois l'utiliser aussi. Et voyez, ce n'est pas la peine de chercher à savoir pourquoi un il a 5 talents, l'autre 3 et l'autre 1. C'est le choix de Dieu. Pourquoi Dieu va donner une onction particulière à tel serviteur? Eh bien, il faut prier pour lui parce que ce n'est pas facile à porter une onction particulière, surtout si ça amène vers des miracles et des prodiges. Donc, voyez bien que tout ça, c'est le choix de Dieu. Mais quel est ton don? Quel est ce à quoi Dieu t'appelle dans ce service? Quelle est la place qu'il t'a donnée? Et il faut bien sûr remplir cette place et cette fonction qu'il te donne pour que tu puisses aider l'Église dans sa croissance. Dieu a besoin de chacun. S'il vous a placé dans cette communauté, c'est parce que chacun, vous avez quelque chose à donner. Du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand. Chacun a son travail que personne d'autre ne peut faire. Et la santé et la prospérité de l'Assemblée dépendent de la reconnaissance de ce fait et de la mise en pratique de cette vérité. Alors si tu as un don et que tu ne le mets pas en pratique, qu'est-ce qui se passe? Tu appauvris l'Assemblée. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors, conclusion. Est-ce que tu travailles sur ta muraille, sur la muraille? Je vous laisse juste réfléchir à ces questions. Est-ce que tu attires l'attention de Dieu par ce que tu fais pour son royaume? Se pourrait-il que tu sois négligent comme Eliashib, bien que chrétien, et ne participant pas totalement à l'œuvre de Dieu? Pourrais-tu être indifférent à l'œuvre du Seigneur, comme certains Tekoïtes qui ont été orgueilleux et rebelles? As-tu bien balayé devant ta porte, laissant le Seigneur œuvrer pour te préparer? As-tu, comme ces filles, ce zèle pour l'Évangile, cette passion pour le royaume, pour l'Église? Mets-tu tes talents à la disposition de Dieu en travaillant pour lui? Et puis, seul ou en groupe, est-ce que tu as trouvé ta place dans l'Église en réalisant quel était ton rôle? Alors Seigneur, merci pour ce passage et pour tout ce que nous avons vu dans ce peuple qui reconstruit les murailles avec finalement des attitudes bien variées. Et ce que je veux prier pour cette église d'Angers où il y a, j'en suis sûr, un beau dynamisme, c'est que tu puisses interpeller chacun. Que chacun prenne bien conscience qu'il est précieux devant toi et qu'il a une tâche à accomplir. Qu'il a un domaine de responsabilité à exercer en fonction des dons que tu lui as donnés, en fonction des talents que tu lui as accordés. Chacun est au service d'une manière ou d'une autre. Et je trouve ça formidable dans une église locale de voir comment, comme un puzzle, on peut mettre tout ça ensemble pour bâtir quelque chose. Ce n'est pas facile, c'est exigeant. Ça demande du relationnel, ça demande du travail, ça demande de la persévérance. Mais qu'est-ce que c'est beau quand on peut avancer ensemble, unis dans ton esprit, pour une œuvre commune, avec ce désir de te glorifier toujours plus, Seigneur Jésus, parce que c'est ça qui nous passionne. Seigneur, prends encore plus de place dans cette communauté, Seigneur. Bénis ses responsables, bénis l'Église. Et merci pour le témoignage qu'ils portent dans cette ville et qu'ils vont continuer à porter dans ton beau et précieux nom, Jésus. Amen.
Nous allons chanter ce chant, « Me voici dans le creux de ta main puissante ». En réponse à ce message, on puisse dire, Seigneur, nous voici, parce que nous sommes à toi, nous sommes pour toi, pour les œuvres que tu as préparées d'avance, que nous voulons accomplir. Amen.
Me voici dans le creux de ta main puissante, espérant dans tes promesses, gravé dans mon cœur. Ma vie, je te la donne complètement, car tu m'accueilles dans ta famille, tu m'appelles ton enfant. Maintenant, je sais que je t'appartiens, désirant ton esprit, ta présence, car mon cri, mon seul vrai désir, c'est te connaître. Vers toi, j'élèverai mes mains, mon roi. Un hymne de louange, je te chanterai de tout mon être. Je la donne complète. maintenant. Je sais que je t'appartiens, désirant ton esprit, ta présence, car en Christ, mon seul vrai désir, c'est te connaître. Vers toi, j'élèverai mes mains, mon roi, un hymne de louange, je te chanterai. Tout mon